My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Salut à tous les auditrices et auditeurs des Enfants du Nouveau Monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission du mois de juin. Alors, le printemps est là, c'est le moment où les fleurs poussent et toutes les plantes, d'ailleurs bien arrosées en ce moment, sont fertiles et foisonnantes. C'est l'occasion de s'intéresser à l'agriculture. Alors moi, bien sûr, vous connaissez mes convictions en ce qui concerne tous ces sujets. Et donc, je me suis intéressée à cette question qui me taraude. Comment on fait pour passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique? Puisqu'aujourd'hui, on sait à quel point l'agriculture conventionnelle nécessite énormément de pesticides et nécessite énormément d'intrants chimiques qui polluent nos nappes phréatiques et qui nous produisent de la nourriture assez toxique. Comment on fait pour essayer de protéger notre terre et de produire de la nourriture saine? Pour répondre à cette question, j'ai deux invités que je suis ravie de vous présenter. Tout d'abord, Renaud Suquet qui nous vient de l'Hérault. Salut Renaud.
Salut, bonjour.
Bonjour. Donc toi, tu es agriculteur céréalier, converti en bio depuis une quinzaine d'années et tu vas nous expliquer justement comment ça se passe, cette transition qui n'est pas facile, comme va pouvoir en témoigner Jean-Luc Aussignargues. Salut Jean-Luc.
Oui, bonjour.
Bonjour. Qui donc est également agriculteur depuis une trentaine d'années, céréalier et légumier, donc on est sur les mêmes domaines pour vous deux. Tous les deux, vous êtes des passionnés. Par contre, voilà, Jean-Luc, en étant conscient de tous les problèmes de l'agriculture conventionnelle, pour l'instant, tu n'as pas trouvé comment vraiment passer en bio. Te sentais un peu coincé dans ce système, pris par des engagements financiers, tout un tas de choses, comme beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui. Donc tu représentes vraiment une grande majorité des agriculteurs qui sont en conventionnel, qui sentent que ça tourne pas rond, mais qui savent pas comment faire leur transition. Et donc Renaud, toi tu vas pouvoir nous donner des pistes au nom de tous ces agriculteurs qui se posent cette question. Comment faire pour être plus en accord avec nos valeurs? Voilà, merci à vous d'être présents.
Merci à toi de nous inviter.
Alors, on se tutoie hein, sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs et auditrices. C'est pas une marque d'irrespect, bien au contraire, comme dirait Prévert. On dit tu à tous ceux qu'on aime. Alors, la première question, c'est vraiment le constat. Pourquoi on veut passer en bio? Qu'est-ce qui se passe en conventionnel de si aberrant aujourd'hui? Et pourquoi il y a une urgence à ce qu'il y ait des conversions d'agriculteurs en bio?
Parce que Jean-Luc, je pense que c'est quand même une conviction personnelle. On s'est rendu compte que on veut garder notre patrimoine qui est l'environnement. Et donc, on va vers ça, quoi, vers une agriculture, disons, plus humaine. Hein.
Plus humaine et plus respectueuse.
Plus respectueuse, hein, tout à fait.
Parce qu'il y a quand même de graves soucis dans l'agriculture conventionnelle. Est-ce qu'on peut en parler de ça?
Ben oui, bien sûr. Il y a de très graves soucis. Ben, les agriculteurs, c'est les gens qui prennent le plus de pesticides. Hein, c'est les plus touchés. Alors c'est paradoxal, c'est souvent ceux qui défendent les produits chimiques. Et puis c'est ceux qui sont les plus touchés. Voilà, il y a un peu une omerta sur tout ça et ça nous gêne.
Quand on dit les plus touchés, ça veut dire malades, hein, ben, qui déclenchent des tumeurs, des cancers, toutes sortes de maladies à cause de l'utilisation des pesticides. Aujourd'hui, c'est vraiment avéré.
Voilà, vous mangez les pommes, mais nous, on met les produits dessus, évidemment. On est... Alors moi, j'ai traité, bien sûr, on l'a tous fait. Hein. C'est difficile quand il fait chaud, on ne se protège pas, c'est pas vrai. On n'est pas assez protégé, enfin, on en prend plein la gueule, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis les gens qui travaillent à côté, c'est pareil. Hein. Et puis, il faut savoir aussi que quand la femme est enceinte, on l'avait vu ensemble avec le professeur Sultan, pendant les 9 mois, c'est dramatique. Si une femme enceinte passe pendant qu'un gars est en train de traiter, ça on ne le dit pas assez, il faut qu'elle s'en aille vite fait. Quoi. Les 9 mois, c'est dramatique. Il faut surtout pas que... Quand on entend le bruit d'un atomiseur là, et qu'un agriculteur va passer...
Fermez les fenêtres de vos voitures, fermez la ventilation et passez vite. Ouais. Moi, je peux donc en témoigner très brièvement sur ce sujet. J'ai donné naissance à un petit garçon qui a une malformation génitale à cause des perturbateurs endocriniens. Tous ceux qui sont concernés par ce sujet, donc on appelle ça un hypospad dans le langage médical. Donc c'est une malformation génitale puisque les perturbateurs endocriniens agissent sur les hormones. C'est vraiment lié aux pesticides, aujourd'hui c'est avéré. Ça entraîne des sous-développements génitaux chez les garçons, des surdéveloppements chez les filles, et donc avec des règles précoces, des développements de la poitrine toute petite à 4-5 ans, etc. Enfin, c'est complètement terrible ce qui se passe. Et donc, il y a le professeur Sultan qui travaille sur ces questions, si ça vous intéresse. Mais là, on ne va pas s'apesantir, c'est juste pour dire que c'est vraiment vérifié ce qu'on
avance.
Même
une baisse du quotient intellectuel, comme le dit Sultan, hein, sur les générations futures. Parce qu'en plus, c'est pas seulement nous, c'est au niveau génétique, c'est nos enfants aussi, on va donner naissance à des enfants qui sont moins intelligents si on a pris plein de pesticides dans la gueule, c'est clair. Hein. Il n'y a pas que nous.
Et effectivement, dans les associations, il y a une association qui s'appelle Phytovictimes, qui rassemble beaucoup d'agriculteurs qui donc ont déclenché des maladies, soit eux, soit leurs enfants, soit leurs familles. Et ils parlent effectivement d'avoir traité les champs en short et en t-shirt, sans protection, sans masque, sans gants, etc. Et qu'effectivement, ils ont été très, très exposés. Donc c'était votre cas aussi. Donc là, on parle des effets sur les humains. Il y a les mêmes effets sur les animaux, puisqu'évidemment, toutes les nappes phréatiques sont polluées. Au niveau de la faune, on observe ces mêmes malformations chez les batraciens, les grenouilles, les poissons, stérilité de ces espèces qui ont du coup de plus en plus de mal à se reproduire.
Féminisation.
Féminisation, voilà, des organes génitaux, etc. Donc très très compliqué là, ce qu'on est en train d'infliger à notre planète, à tous les niveaux, à notre environnement. Donc voilà, fort de ce constat, on se dit, ça suffit, il faut changer les choses. C'est ce qui t'est arrivé, toi, Renaud ?
Voilà, alors à l'époque, c'était pas allé aussi loin, hein. Comme je te le disais, moi je faisais 16 variétés de tomates anciennes et personne n'en voulait il y a 15 ans, hein. Ça paraît pas croyable maintenant.
J'avais vu. T'étais déjà engagé du coup, parce que c'est à l'époque où on parlait pas des variétés anciennes, c'était pas du tout à la mode. Toi, t'as été un des premiers à les amener.
Disons que moi je suis un passionné de botanique depuis que je suis tout petit, hein, faire des boutures, hein, j'adore tout ça, donc évidemment... J'ai pas mal voyagé aussi, tout ce qui est botanique, nouveaux fruits, nouvelles variétés, je veux tout goûter, j'aimerais tout connaître, donc c'est trop intéressant. Donc déjà, oui, bien sûr, j'avais trop envie de faire des tas de choses. Quand je suis tombé sur le catalogue de Cocopelli, ça a été du vrai bonheur. Quoi.
Donc Cocopelli, une association engagée pour continuer à produire toutes les semences qui font partie du ancienne, qui font partie du patrimoine de l'humanité, ouais. Et qui aujourd'hui sont vraiment mises en danger par des grosses firmes, les semenciers, exactement. Qui aujourd'hui vendent les graines et réduisent de plus en plus le catalogue des graines que l'on peut acheter et donc que l'on peut planter et donc que l'on peut continuer à faire vivre. Et donc au risque de perdre tout un tas d'espèces anciennes qui sont en plus adaptées à différents terroirs locaux et qui ont des goûts savoureux. Enfin bref, c'est la diversité de la biodiversité dont il est question. Quoi.
Bien sûr, il faut dire qu'on est en grand danger. Par exemple, le taffetas, hein, il faut en parler aussi, entre tout. Mais par exemple, en Colombie, les Colombiens ont passé un marché commun, un genre de taffetas avec les Américains. Et il y a 2 ans, carrément, la police colombienne est allée détruire, avec des pelles mécaniques, les productions de semences des agriculteurs. J'ai vu des vidéos qui ont été tournées par des professionnels, mais c'est quand même assez délirant. Donc là, il y a eu un moratoire, parce que bon, carrément, les Indiens ont râlé, enfin, c'était vraiment, ils débarquaient chez les paysans sans rien dire, sans les avertir, ils allaient dans leur garage, et ils prenaient toutes les semences, ils faisaient des fosses à la pelle mécanique, et ils enterraient tous les sacs de semences. J'ai vu des images, c'est dramatique.
Donc, aujourd'hui, on assiste vraiment à la guerre des semences.
Ah là, c'est carrément la guerre. Alors en Colombie, par exemple, sur 5 maisons de semences qui étaient autorisées à vendre les graines, les 4 étaient américaines, bien sûr, et une colombienne, vous voyez. Donc voilà, il va falloir... Et le taffetas, c'est ça. Le taffetas, c'est entre autres ça.
Alors on a fait une émission sur le taffetas qui est en ligne sur le site de Radio 16 dans l'onglet Les Enfants du Nouveau Monde, bien sûr. On a déjà traité de ce sujet. Il y a aussi une émission qui est consacrée aux semences, si jamais vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là. Continuons dans le constat donc, de l'agriculture conventionnelle. Donc il y a l'aspect donc, des semences qui est de plus en plus compliqué pour les agriculteurs. Comment produire ses propres semences ? Aujourd'hui, c'est très compliqué puisque les semences qui sont vendues sont des semences stériles.
Hybrides.
Hybrides, voilà, qui sont donc stériles. Elles peuvent faire une récolte, mais après, on ne peut pas les replanter.
Une lignée et puis c'est fini.
Alors, ce n'est pas toutes les semences qui sont stériles. Par exemple, on peut reproduire le blé. Par exemple, le blé, quand les grosses coopératives vous vendent de la semence de blé, en fait, ils vont voir les agriculteurs du coin qui ont des jolis blés, ils leur disent, tiens, on te les paye un petit peu plus cher, on va en faire la semence.
D'accord.
Donc le blé, allez-y. Après, on peut... Le pois aussi, on peut...
Les pois, les petits
beaucoup
pois.
De gens ne le savent pas, le pois, on peut le multiplier, hein, le pois protéagineux, tout ça. C'est pas des hybrides, ou peu, enfin, je sais qu'on... Voilà, donc pas le tournesol, mais voilà, il y a encore des choses qu'on peut...
Mais il en reste assez peu, quoi, s'il n'y a que le blé, le pois...
Après, il y a des vieilles variétés, hein. Moi je fais des anciennes variétés, on est encore autorisé à les faire.
Donc des anciennes variétés de céréales ?
Alors céréales, il y a du blé tendre, du blé dur, il n'y a pas grand-chose en vieilles variétés. Je suis allé au Maroc il y a 2 ans pour aller voir dans le Rif, ils avaient 3 vieilles variétés de blé dur, parce que je pense que les problèmes d'intolérance qu'on a avec le blé tendre et le pain, on risque très fort de les avoir avec le blé dur, parce que quand on voit les blés durs, surtout dans notre région, puisqu'il n'y a que du blé dur, comment ils ont évolué en 30 ans, hein, ils étaient beaucoup plus hauts avant, enfin ils
tout
sont
à fait,
plus
oui.
Maintenant, enfin, on s'est aperçu qu'il y a eu les mêmes manipulations pratiquement que sur le blé tendre. Donc le blé dur, on risque d'avoir bientôt des problèmes en mangeant des pâtes.
Donc voilà. Là, on parle de l'intolérance au gluten, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est bien ça. On assiste à ce problème de plus en plus, c'est-à-dire que les semences de blé ont été tellement trafiquées pour qu'elles contiennent plus de gluten, comme son nom l'indique, le gluten, c'est de la colle, et ça fait gonfler, donc effectivement, ça crée plus de matière. Avec moins de matière, on en fait plus, on fait gonfler le pain, on fait gonfler les pâtes, on fait gonfler, etc. Sauf qu'au niveau de l'organisme, c'est pas super super, puisque ça nous fait coller, ça nous colle l'organisme, et qu'on assiste aujourd'hui donc à de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten, à cause de ces modifications sur le blé, puisqu'on n'avait pas ces soucis avec les céréales anciennes qui étaient moins fortes en gluten. Donc voilà, encore une autre question importante.
Il faut voir aussi qu'il y a un peu une omerta sur le gluten. Alors bon, comme tout est tenu par des groupes de plus en plus gros, par exemple, vous voyez, il y a eu un droit de mouture qui a été imposé par le gouvernement de Léon Blum à l'époque. Et donc après, les meuniers ont racheté tous les petits moulins et tous les droits de mouture restaient. Alors maintenant,
ça, c'est une question très très intéressante que je t'avais posée, Renaud, et qui me titillait beaucoup. C'était, j'avais entendu dire qu'il est interdit pour les céréaliers de vendre des céréales anciennes. Et c'était ça que je voulais voir avec toi. Et tu m'avais répondu par l'affirmative en me disant effectivement, c'est donc interdit à cause de cette histoire-là que tu es en train de
décrire.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Je suis pas tout à fait exact là. Ouais,
Les semences, en fait, on est autorisé à se les échanger. Donc
oui.
C'est un frein encore. Donc si je donne à un agriculteur 100 kilos, l'année d'après, il doit me donner 200 kilos de grains. Mmh. Voilà, on n'est autorisé qu'à ça, pas se les vendre. Mais bon, on se débrouille, on n'est pas bête.
Voilà. Heureusement, Dieu merci.
Voilà, ensuite le gluten, je voulais dire qu'il y a une omerta dessus, que les gens, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient intolérantes au gluten et qui me disaient, ne le dis pas, j'en ai honte, tout ça. Parce qu'en fait, voilà, comme je disais, il y a eu le droit de mouture, tout s'est concentré. Et maintenant, on n'a que quelques meuniers qui sont énormes, comme le groupe Soufflé, Michel Soufflé, les moulins de Pantin, les moulins de Paris, tout ça. Et donc, en fait, ils se sont cartélisés, évidemment. Et voilà, et en fait, comme c'est les gros industriels, ils sont copains avec nos gros industriels de la communication, hein, qu'on connaît là, les groupes français de communication c'est la même bande. Donc voilà, on fait passer les gens intolérants au gluten pour des gens ridicules, pour une mode. On dit c'est une mode, quoi. Donc voilà comment
il y a ça d'une part, et puis d'autre part, il y a aussi quand même de plus en plus d'articles. Là, il y en avait il y a pas longtemps encore, dans 20 minutes, tu vois. Donc c'est vraiment.
Mais ils pourront plus l'arrêter.
Voilà, ouais, c'est ça, c'est que c'est tellement important qu'aujourd'hui aujourd'hui, on en parle aussi et on trouve aussi des articles sérieux sur le sujet.
Ça commence.
Et oui, donc pour repréciser ce que je disais tout à l'heure, on sort un tout petit peu du sujet, mais c'est quand même très intéressant. Est-ce que tu peux rectifier ce que j'apportais comme information ? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est interdit, c'est de vendre de la farine de, blé ancien dans les boulangeries. C'est ça, hein ?
Non, c'est pas ça.
Alors vas-y, rectifie.
Non, c'est vrai que c'est compliqué.
Mais,
en
étant bref, parce que ça me paraissait vraiment crucial comme information.
Alors en fait, voilà, sur les variétés anciennes, on a le droit de se les échanger uniquement. Ensuite, sur la farine, comme il y a un droit de mouture, on n'a pas de droit de mouture, nous les agriculteurs.
Droit de mouture, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de moudre la farine. Donc vous avez le droit de produire le grain, mais vous n'avez pas le droit de moudre le grain pour faire la farine.
Exactement.
C'est quand même terrible ça déjà, rien que ça c'est terrible.
Sauf, il y a un petit espace de liberté à la MSA, et c'est les boulangers paysans.
Voilà, donc il faut être paysan-boulanger, c'est la seule faille qui est possible.
Exactement, voilà, c'est au nom du droit ancestral qu'a le paysan à vendre son produit. C'est quand même pas croyable.
Donc toi, par exemple, qui est céréalier, tu n'es pas boulanger, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément envie de mettre les mains dans le pétrin. Toi, ton travail, c'est de cultiver les céréales. Si quelqu'un te demande et veut t'acheter de la farine, par exemple, d'épeautre, tu es incapable de pouvoir moudre l'épeautre et lui fournir de la farine. Alors qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande. Hein.
Voilà. Alors moi, j'ai acheté un moulin il y a quelques temps et que je suis en train de retaper.
il a les yeux coquins, ce Renaud. Vous aurez compris que les lois ne l'arrêteront pas. Il a bien raison.
Oui. Voilà. Écoutez, c'est grâce à ça que le monde a changé. Mais bien sûr, et je suis en train de voir avec un boulanger pour lui louer son local et faire du pain dans son local, parce que je me suis dit qu'il y avait plein de boulangers qui ont un savoir-faire et qui peuvent m'aider. Ils ont du matériel qui ne tourne pas tout le temps. Donc je me suis dit comment on pourrait faire. Par contre, mon pain, je ne vais pas pouvoir le vendre en bio, puisque la boulangerie n'est pas certifiée bio.
D'accord.
Donc c'est issu de... Il y a un gros débat en ce moment, des gars qui ont été attaqués justement parce qu'ils ont dit que leur farine était bio, mais l'atelier n'est pas bio. Donc enfin, c'est vraiment... Il faut bien que ce soit clair et dire aux gens...
Compliqué. Bah
évidemment, hein, vous imaginez... Maintenant, on a le lobby des moulins qui sont très puissants au niveau du gouvernement, qui font les lois comme tous les autres lobbies et qui vont tout faire pour nous ennuyer.
Bon, après, comme toujours, c'est une histoire de confiance entre le consommateur et le producteur. Quand on est sur des circuits courts, on connaît son producteur et on n'a pas forcément besoin d'un label pour savoir que c'est des bons produits et que voilà. Mais c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à aller vous intéresser aux producteurs autour de chez vous, les rencontrer. Peu importe le label, il vaut mieux acheter quelque chose sans label bio à un producteur du coin que d'acheter du bio chez Carrefour.
Exactement.
Voilà. Alors donc, on a fait un petit tour d'horizon, bon peut-être pas exhaustif, mais quand même de l'agriculture classique. Peut-être, Jean-Luc, tu peux nous apporter, toi qui es encore dedans, d'autres éléments pour ce constat sur l'agriculture conventionnelle. En quoi c'est un piège ? En quoi on est coincé ? Quelles sont les problématiques ?
C'est-à-dire quand on achète de la semence, notamment... De blé, pour prendre l'exemple. Donc, de la semence conventionnelle, on sait pertinemment que, bon, pour avoir du rendement, il faut des intrants. Et avec ces intrants, on affaiblit la plante. Donc, c'est une chaîne qui s'opère. Et donc, avec cela, bon, mais il faut des paliers aux maladies. Donc, plus on affaiblit la plante en la faisant produire, plus il faut intervenir pour garder son potentiel.
Tout à fait.
Donc, y a tout un pack de vendus avec.
Voilà, c'est ça. Donc, y a
Après, on est pour, on est contre.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus d'autonomie. C'est-à-dire que le paysan n'est plus autonome et il devient dépendant de toutes ces firmes qui vendent tout un tas de produits chimiques. D'une part, les engrais, d'autre part, les pesticides. C'est un pack, quoi.
Exactement. Donc, après, bon... voilà le prix à payer pour garder le rendement.
Et alors du coup, vous êtes entré dans ce système, vous n'aviez pas vraiment le choix parce que tous les agriculteurs, vous passez tous par les mêmes formations et dans ces formations-là, c'est le seul modèle qu'on vous propose.
Oui, jusqu'à maintenant, oui, parce que actuellement, quand même, ça change. On voit que certains agriculteurs évoluent en bien, dans le bon sens. Mais il y a 20-30 ans, l'agriculture biologique, on entendait dire que c'était des farfelus, c'était des gens bizarres. Maintenant.
Et on n'avait pas confiance sur le fait que ça pouvait être rentable, etc. On n'y croyait pas.
Ça se la question, je pense que ça ne se posait même pas. C'était comme ça, et puis on devait produire comme ça. C'était...
Fait et moi, alors, je... est-ce que vous pouvez nous parler aussi de, du cercle vicieux financier ? Parce que du coup, vous étiez obligé d'investir, de faire des crédits, du coup, vous aviez une dette, et puis pour payer cette dette, il faut produire, et puis pour produire, du coup, il n'y a que voilà.
Quand on rentre dans le productivisme, c'est financier. Donc, il faut suivre dans le sens où on nous mène. Donc... voilà, il faut des emprunts pour le matériel, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus performant. Et la finalité, c'est pour vendre les choses encore moins chères.
Oui, donc au final, vous n'êtes pas gagnant.
Donc voilà,
vous travaillez
il faut faire l'addition à la fin.
Paupérisation de l'agriculture.
Donc après, c'est un constat que... Bon, après,
les agriculteurs sont de plus en plus pauvres, les agriculteurs conventionnels.
Exactement.
C'est-à-dire, il y en a qui sont complètement dans le désarroi.
600 suicides par an, quoi, c'est dramatique.
600 suicides par an en France ?
600 suicides par an en France, c'est dramatique, dans le silence absolu. S'il y a un gars vers Vannes, il a mis 600 croix en polystyrène dans un champ et ils font une messe tous les 11 mars avec l'archevêque de Vannes. Enfin.
Ah oui.
Mais non, c'est dramatique. Là, il faut faire quelque chose, quoi, c'est sûr. C'est dramatique ce qui se passe en France. Ouais.
Et puis, il faut vraiment rappeler qu'en plus, quand on choisit ce métier, parfois ça peut être comme Jean-Luc, je ne sais pas toi pour Renaud, mais une histoire familiale, c'est-à-dire que ça vous a été transmis par vos parents, mais il y a une vraie passion derrière.
Il y a une passion.
Il y a une vraie passion.
Une passion, oui, la transmission aussi qui était très importante.
Et du
coup. Parce qu'il faut quand même être fier de cette transmission.
Voilà.
Donc, vu cette fierté, je comprends que ceux. À la fin, qui sont dans le désarroi, eh bien, c'est un échec total.
Et que ça puisse mener jusqu'au suicide, parce qu'à un moment donné, justement, il n'y a plus cette fierté. On est complètement perdu dans un système qui marche sur la tête.
Et le problème, c'est que vous ne pouvez plus transmettre. C'est une rupture totale.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les agriculteurs, moi je l'ai vécu déjà, sont harcelés par la mutualité sociale agricole. En fait, ce qui se passe, c'est que la mutualité prend en compte le nombre d'hectares. Donc vous pouvez avoir, je sais pas, 50 ou 100 hectares, et la mutualité, elle va vous imposer comme quelqu'un, voilà, va vous imposer assez durement, et vous perdez de l'argent. Donc vous voyez, c'est des lettres d'huissier en permanence, des visites d'huissier en permanence. Ils savent très bien que vous pourrez jamais payer, que les prix de vos produits, c'est dérisoire. Et voilà, c'est un harcèlement permanent. D'ailleurs, le gars le juriste de la Chambre d'agriculture de l'Hérault m'a dit dernièrement que la MSA avait donné un numéro au cas où ils entendraient parler de suicide. Vous voyez ? Donc, c'est hallucinant. La MSA a vraiment... elle pousse les agriculteurs aussi au suicide, quoi. Leur calcul est mal fait, quoi. Qu'un agriculteur perd de l'argent sur son exploitation, il ne devrait rien avoir à payer, vous voyez, c'est hallucinant. Donc voilà, c'est un harcèlement permanent. Et puis, la facture augmente. Ça veut dire que tous les jours, vous perdez de l'argent sur votre exploitation. Et la MSA vous demande encore plus. Parce qu'il y a des frais, mutualité sociale agricole. Quoi. Hein, il faut savoir que chaque jour, votre facture augmente. Parce que vous n'avez pas payé, vous avez des frais encore plus. Mmh. Et ça devient l'horreur. Et je suis persuadé, là, il faut y mettre le nez dedans, que beaucoup d'agriculteurs se suicident à cause du harcèlement de la MSA. Il faut arrêter d'harceler un gars qui est au bout du rouleau, qui n'en peut plus et qui perd de l'argent. Vous comprenez ?
Bien sûr.
600 suicides par an pour des braves gars, pour des paysans, c'est en général des valeureux bosseurs, les paysans.
Bien sûr,
c'est pas
sûr.
Des mouviettes. Hein.
Ouais.
C'est qu'il y a quelque chose. Il faudrait qu'on y mette le nez dedans. Vous voyez, s'il y avait eu 600 personnes qui se jettent par les fenêtres à France Télécom, on aurait quand même fait quelque chose. Je tire la sonnette
d'alarme.
Merci
de tirer la sonnette d'alarme. Et on va s'écouter un morceau de musique qui lui aussi tire un peu la sonnette d'alarme avec humour. C'est La rue qui est à nous, dans l'album À contre sens avec Maître Corbeau. A tout de suite.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Wahed Zouj, le micro est ouvert, on a que ça. Des mots et la croix est populaire. Une cogite, un stylo, un cahier. V'la dis pas qu'on est hal, pareil pour aboyer.
Car trop de paroles et trop d'années. Et encore rien n'a changé, peut-être ne changeront-elles jamais. Cette façon-là que les gens ont de penser, de vouloir à tout prix, de vouloir tout gagner. Mais qui dit gagner, on dit perdant. La rage dedans, on ne vous l'apprend pas. La compétition est pour nous un problème déjà trop propagé. On n'a qu'à nous ne raisonnerons de cette façon-là. Car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, mais le corbeau radin n'a rien donné,
rien lâché.
Et le renard la faim au ventre lui a arraché. Oh trêve de volatile, passons aux choses humaines. Car j'ai de la peine de voir la petite sur son trottoir la crassonner
dans les rues de Tanger.
Alors que juste en face dans un resto, le touriste joue l'ignorant gavé d'argent bien au chaud sur cette partie du continent. Quand cesserons-nous de nous plaindre et quand cesserons-nous de jeûner pour des billets? L'homme n'est pas fait pour travailler, on le crie sur un micro, une écoutille dans une société qui pousse à moderniser. Et quand l'outil sera bien électroniqué, l'outil sera bon à jeter. Car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. J'ai le droit d'être quelqu'un, sans travail je ne suis rien.
Faux, ce ne sont là que des ragots
poussé par l'être humain dans une facilité pour se raccrocher à des bouées,
à leur bouée,
qui très vite vont se transformer en des menottes, en des clapiers.
Enfermer les esprits un peu trop libérés, 10 ans comme employé chez Renault, et aujourd'hui il vend des fleurs dans le métro. Comment peut-il compenser ce qu'il gagnait? Des gestes imprégnés, tourner, coller, repasser.
Toute sa vie il a bossé dans une entreprise
de merde,
avec un boulot
de merde,
où la philosophie travaille plus vite que tes voisins, et tu seras en haut demain, mais bien loin, et le sommet des échelles, et seuls quelques corbeaux peuvent encore y accéder. C'est pour cela qu'encore une fois on pose notre doigt
sur ce détail-là à haute voix. Car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Ah, c'est sûr que Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui aurait rendu cet hommage.
C'était La rue qu'est à nous, avec Maître Corbeau sur Radio 16 dans Les Enfants du Nouveau Monde. Vous êtes sur le 99.2. Aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, on s'intéresse à l'agriculture. Comment on passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique? C'est une question cruciale, une question de société, une question qui concerne quel monde on veut dans les années à venir. Est-ce qu'on veut un monde pollué, toxique et dangereux, ou est-ce qu'on veut un monde sain, beau et
heureux,
merci Renaud. Alors donc, pour parler de cette question, j'ai avec moi Renaud Suquet qui vient d'intervenir, vous avez entendu sa voix, et Jean-Luc Aussignargues. Alors, on a fait un constat de l'agriculture conventionnelle, Jean-Luc a pu aussi nous en témoigner. Comment on peut se retrouver coincé dans un système où la formation va dans ce sens-là, tout le la chambre d'agriculture, tous les instances qui entourent les agriculteurs, les poussent vraiment à aller dans le système conventionnel, un système qui fait pousser donc les plantes sous perfusion quasiment, hein, d'engrais chimiques, de pesticides pour répondre à toutes les maladies, etc. Ce qui appauvrit le sol, ce qui appauvrit les plantes et ce qui nous appauvrit nous en termes de qualité de nourriture. Face à ça, on essaye donc de passer en bio, mais c'est pas si simple, Jean-Luc.
Oui, parce qu'on est imprégné de la culture traditionnelle qui se faisait jusqu'à maintenant, hein. Avec des semences, des pesticides.
Et avec beaucoup de peur par rapport à un changement vers l'inconnu, puisque l'agriculture bio, c'est encore assez peu abordé dans les formations. Il y a peu d'organismes qui accompagnent les agriculteurs vers cette transition.
On n'a pas eu de formation pour ça. Mm-hmm. On n'a pas eu d'autres alternatives. Mm-hmm. Parce que maintenant on s'aperçoit que même ceux qui restent en conventionnel, ils prennent de l'expérience sur de l'agriculture biologique. On le voit de plus en plus. Donc, c'est bien...
Finalement, l'agriculture biologique, c'est juste l'agriculture du bon sens. C'est donc, juste l'agriculture c'est bien... des anciens.
C'est pas moi qui le dis, c'est un constat.
C'est... Tout à fait.
Et... Oui, plus d'informations là-dedans. Donc, c'est bien qu'il y a une raison.
Alors justement, on va parler de la transition que Renaud a effectuée donc, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, toi, tu t'es dit, basta, la conventionnelle, j'ai envie de tester autre chose. Et donc, tu as testé sur des asperges. C'est intéressant, l'expérience, tu peux nous raconter ?
Voilà, alors moi, j'avais une grande exploitation d'asperges. J'avais 28 hectares d'asperges. Et puis, bon, je me posais des questions. Donc, j'ai passé j'avais une sensibilité bio plutôt naturelle. Et puis, j'ai passé un champ en bio à un autre endroit. Et puis, bien sûr, j'ai mis des asperges. Et donc, ces asperges, j'ai mis plein de fumier. Et puis, je me suis aperçu que mes asperges qui avaient du fumier en bio, elles n'étaient pas malades. Elles étaient magnifiques et elles n'étaient pas malades. En fait, le fumier, j'avais donné une alimentation complète. Il y a 28 éléments.
Voire plus, 28 voilà. Répertoriés.
Tu vois, le bore, le cuivre, tout.
Oui.
Voilà, répertoriés, on en trouve des nouveaux de temps en temps.
Sans parler des petites bactéries, des trucs...
Sans parler tout ça, exactement, tu as raison.
Qui alimentent le sol.
Voilà. Donc, voilà, et je m'apercevais que mes asperges en chimie, que tous les 15 jours, j'étais obligé de les traiter parce qu'elles étaient malades. Donc, voilà, en bio, je me suis aperçu que je donnais une alimentation équilibrée, mes plants n'étaient pas malades. Et en chimique, voilà, je donnais NPK en engrais, c'est-à-dire N, c'est l'azote, P, c'est le phosphore et K, c'est le potassium. C'est un peu comme si vous donniez à une personne trois éléments, vous la nourrissez avec trois trucs, vous voyez, vous mangez que trois choses dans la vie, et ben, vous allez tomber malade.
Forcément,
et après, voilà, après, il va falloir soigner votre maladie. Là, on gère de la pathologie végétale, comme dit Claude Bourguignon. Voilà, après, il faut manœuvrer. Hein. Je te disais, c'est comme l'exemple que j'aime bien du grand et gros américain qui mesure 1m80, qui bouffe du hamburger toute la journée. Ben, c'est sûr, il est grand, il est gros. Un peu comme le plant de maïs, où la feuille, elle est large et le plant, il est vachement haut. Mais en fait, il est malade. Mmh. Voilà. Donc, en fait, nous, en mangeant des choses malades, on tombe malade aussi.
Et voilà. Alors justement, bon, on peut faire juste une petite parenthèse sur l'étude Séralini dont tu me parlais tout à l'heure. Étude récente faite par des scientifiques français qui prouve aujourd'hui de façon avérée et claire la dangerosité des OGM. On n'en est plus à l'époque où peut-être que ça peut être dangereux. On en est à vraiment, c'est une évidence. Ça a été testé sur 300 rats. Les 300 rats sont ressortis avec des tumeurs énormes. Il y a apparemment...
Voilà. Au bout de 4 mois. Alors, ça a été une étude qui a été commandée aussi par la grande distribution française, Auchan, Carrefour, tout ça, qui voulait savoir vraiment ce qui se passait, parce qu'on disait un peu de tout. Donc, ça a été une étude qui a été faite avec des répétitions dans les règles de l'art, hein, des placebos, des répétitions, pour que ce soit vraiment irréprochable. Voilà, Séralini, il a découvert qu'après 4 mois, les rats avaient des tumeurs, il y a des photos qu'on a vues, et voilà, et Monsanto avait fait les études, bien sûr, jusqu'à 4 mois. Donc,
C'était arrêté avant la date des 4 mois où là apparaissent les tumeurs. Donc effectivement,
exactement.
Il peut dire que ça ne fait rien puisqu'il n'est pas allé jusqu'à la période où les tumeurs apparaissent.
Exactement, c'est la même chose quand vous voyez des nouvelles molécules en chimie qui sont homologuées et comme par hasard les anciennes qui tombent dans le domaine public au bout de 17 ans et qui sont moins chères, on les interdit. Voilà, ces nouvelles molécules, on vous dit « Ah ouais, mais celle-là, elle n'est pas cancérigène. » Mais on n'en sait rien,
elle
on n'a pas le recul.
Elle n'a juste pas été testée.
Voilà,
quoi.
Dans 20 ans, il est évident qu'on va vous dire « Mais c'est cancérigène. Mm-hmm. » Donc voilà, c'est toujours le même système.
Alors on reprend sur notre sujet. Donc on est dans une aberration en conventionnel sur tous les points de vue. Comment donc on fait maintenant pour changer ? Toi, tu as fait ton premier test, tu as vu que ça marchait bien sur les asperges en bio avec du fumier. Est-ce que c'est plus de travail ?
Alors oui, il y a plus de main-d'œuvre, il n'y a pas de désherbage, il faut être outillé différemment. Alors ce qu'il faut voir, c'est que l'agriculteur, il n'a pas un épandeur à fumier. Vous voyez, quand il est dans le chimique, il faut changer les habitudes, il faut changer le matériel. Donc on est déjà assez endetté, il faut encore acheter du matos. Donc c'est vraiment pas évident. Et puis ce qui est surtout pas évident, c'est au niveau commercial. Parce que là, c'est totalement
différent. Il faut complètement changer de réseau. C'est plus les mêmes fournisseurs, c'est plus les mêmes clients, c'est plus du tout le même monde.
Voilà. Voilà, et quand vous savez que le principal, c'est vendre, hein, c'est très difficile de vendre, hein, produire, on y arrive toujours, hein, mon collègue va le dire. Voilà, c'est vendre. Et là, il y a un gros problème qui est en train de bloquer notre région, notamment. C'est, alors, je connais, ici, je sais que le gros, c'est Sud Céréales, je crois, tu dois...
Oui, hein, voilà.
Voilà, c'est le gros acheteur.
C'est le gros acheteur. Alors, il faut savoir que dans le Sud, là, toute la région du Gard, l'Hérault, tout ça, il y a deux grosses coopératives qui se partagent le gâteau. Ça s'arrête à Béziers. Alors, d'un côté, vers le Gard, c'est Sud Céréales. C'est les gros céréaliers de Camargue qui ont monté ces grosses structures énormes. Hein. Donc, tout ce que vous voyez comme champ de blé, ça va chez Sud Céréales. Et de l'autre côté, à peu près à partir de Béziers, ça change un peu. Et c'est Agribio Union. C'est la grosse coopérative du Lauragais. C'est les gros céréaliers du Lauragais qui ont monté cette énorme coopérative. Sauf que, bon... ces coopératives, je vois, elles ont été montées par des gens qui sont pas du tout bio. C'est des très gros céréaliers. Et par exemple, à Salé-le-Dode, hein, je vais vous donner un exemple précis. Hein, et voilà, c'est un céréalier l'année dernière qui me disait que toutes ces céréales, la coopérative, elle lui achetait au même prix que le chimique. Vous vous rendez compte?
Donc là, c'est pas du tout rentable pour quelqu'un qui passe en bio et qui se fait acheter ses céréales au même prix que la conventionnelle, c'est pas possible. Alors comment on fait justement pour trouver d'autres réseaux?
J'ai un autre agriculteur sur Coursan aussi, un autre village, hein, je vous cite des cas bien précis, hein, j'invente pas.
Mais ça, c'est les cas des échecs, parce que c'est des personnes qui ont investi pour passer en bio et qui n'arrivent pas à écouler dans des circuits bio et à valoriser leurs produits.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'en céréales, 100% des céréales sont vendues par ces deux groupes coopératifs. Et en fait, ces groupes coopératifs, tu te rends compte, à Coursan, Salé-le-Dode, deux agriculteurs me l'ont dit, ils leur achètent au même prix que le chimique. Donc en fait, je les soupçonne de vouloir foutre en l'air le bio.
Bah, c'est une évidence.
C'est une évidence. Donc voilà, je me suis demandé pourquoi, et puis voilà, parce que ça les emmerde en fait, le bio. Il faut d'autres bennes.
Bien sûr.
Moi, vous voyez, à Béziers, j'ai des champs sur Béziers, je dois amener ça à Castelnaudary, vous voyez, à mes frais, bien sûr, tout ça. Donc ça, ces gros céréaliers, tous ces babacools là, qui vont foutre le bordel, dans le conseil d'administration de Sud Céréales ou de machin. Hein, mon ami rigole et comprend. Hein, voilà, on n'a pas envie de troublions là qui commencent à... Voilà. Donc en fait, je pense que le gros problème aussi, c'est un problème commercial, c'est que l'agriculteur qui va faire des céréales en bio, il va être pratiquement obligé de vendre, de porter ses céréales à ces groupes coopératifs énormes. Et en fait, c'est impossible de vivre. Au prix du chimique, alors qu'il y a une demande.
Alors comment on fait, Renaud?
Alors moi, j'ai essayé de sortir de tout ça. Je vends mes céréales. C'est la seule solution. J'ai bien vu qu'ils allaient me
flinguer. C'est-à-dire que tu passes pas par ces coopératives.
Non.
Tu cherches des clients directs.
Exactement.
Tu fais un circuit court et tu trouves des clients qui cherchent des céréales bio.
Voilà, exactement.
Alors, quel type de clients tu trouves?
Alors, il y a des gros meuniers. Là aussi, on a des gros meuniers aveyronnais qui sont assez demandeurs, mais eux, bon, ça me gêne un peu de leur vendre, j'en ai déjà vendu. Vous voyez, quand vous voyez, je citerai pas les noms des magasins, là, j'en ai vu un en montant, voilà, ils vous mettent pain aux céréales anciennes. Hein, il faut savoir qu'il n'y a que 5% de céréales anciennes dans leur pain.
Oui,
voilà, on rentre avec tous ces gars, voilà. Donc oui, essayer de vendre à des gens plus éthiques. Moi, par exemple, pour mon petit épeautre, j'ai fait faire des bocaux, parce que le petit épeautre, ça met 50 minutes à cuire, donc j'ai essayé de faire un produit transformé, et puis je fais sous-traiter la transformation parce que je me dis il faut pas laisser aux industriels le choix de mettre ce qu'il y a dans nos rayons. Vous voyez, moi j'ai des fois même ça commence à m'arriver, des gens qui m'appellent et qui me disent ouais c'est génial, c'est un produit sans sel, c'est sain, tu as mis des haricots avec du petit épeautre, ça fait une céréale.
Donc transformes ton produit, c'est comme ça que tu arrives à le valoriser, c'est-à-dire que tu prépares des bocaux avec du petit épeautre, des haricots, etc. C'est-à-dire que c'est prêt à consommer quasiment.
Voilà, j'ai fait des produits prêts à consommer. J'ai fait des caviars de petit épeautre, c'est-à-dire...
J'ai eu l'honneur de goûter, qui est très très bon.
Voilà, inventé. Je me suis dit, il faut faire des produits bons pour la santé, pour les gamins. On peut faire l'apéro, ça peut être bon et bon pour la santé, bon au goût, c'est possible. Et pas trop cher. Mm-hmm. Donc ça aussi, c'est possible. Donc ça se passe assez bien. Voilà, je suis en train de faire du pain, tu vois, que je distribue début aussi dans les magasins pas bio, parce que bon, comme mon pain a été fait dans un atelier.
Mais alors du coup, je me pose une question. Le pain bio qu'on peut trouver par exemple en grande surface, il est issu de quel céréalier? Puisque alors, tu as l'air de pas trouver de l'autre côté de la chaîne. Toi, tu crées de la céréale bio, mais tu trouves pas de débouchés.
Alors moi, j'ai des débouchés, si, y a une énorme demande, mais les structures de commercialisation sont pas faites. Vous voyez?
D'accord. Donc il y a les deux de chaque côté de la chaîne, il y a le producteur, il y a le consommateur, ça c'est clair, mais entre les deux, on ne sait pas comment se retrouver, c'est ça ?
Voilà, un peu, disons, il y a un problème de certification qui coûte très cher. Moi, j'en suis à 1400 euros chez Ecocer. C'est dramatique parce que j'ai des champs qui sont assez espacés, donc ils me font payer à chaque fois. Voilà. Oui, donc, bon, voilà, il y a cette histoire de bio. Il faut avoir le logo AB et l'atelier certifié bio. Ça coûte encore de l'argent. Donc c'est compliqué. Et puis, voilà, il faut tout recréer. Moi, je suis en train d'essayer de rentrer dans les magasins de fruits et légumes, par exemple, en chimie, qui sont chimiques. Voilà, j'aime pas trop cette...
Pour vendre tes produits ?
Ouais. Moi, j'aimerais que le bio, ça sorte un peu des magasins bio. Le bio, c'est en fait de l'agriculture normale.
Tout à fait.
J'aime pas trop le monde du bio parce que je les trouve très intolérants, très individualistes. Si vous avez pas le look ou machin, on vous prend pas, on vous regarde de travers et tout. C'est très français aussi. Hein, on voit dans d'autres pays des gens qui sont dans le bio qui n'ont pas un look spécial et tout, ils sont dans, voilà, on peut être voilà. Donc il y a aussi, c'est très français, hein, cette critique, ce look qu'il faut avoir. Non, moi j'aimerais que ça se vulgarise, qu'il y ait partout du bio, et voilà, que ce soit pas que les magasins bio, hein, tu vois.
Oui, je comprends. Bon, alors effectivement, ça a l'air de pas être simple. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc ?
Oui, j'écoute.
Ça te fait peur, tout ça ?
Non, ça me fait pas peur. J'écoute avec attention.
Ouais.
Faut voir sur les céréales. Je sais pas combien ils vont payer ton blé si tu en fais en bio. Après, le truc, c'est que moi, je fais des céréales anciennes. Le gros problème des pains bio, c'est qu'ils sont faits avec des blés modernes.
D'accord.
Donc, vous achetez des pains bio au Biocoop du coin, c'est des blés modernes. Donc,
fort en gluten, même s'ils sont bio.
Fort en gluten, pourri, bien sûr.
Ouais, d'accord.
Donc, il faut manger des céréales anciennes. Moi, je fais des blés anciens. Je fais variété qui s'appelle le rouge de Bordeaux, qui est du 11e siècle. Je fais du petit épeautre. Voilà, il faut, maintenant qu'on le sait, il faut des céréales anciennes.
Oui, mais comment on les trouve ? Il n'y en a pas beaucoup qui les cultivent et encore moins qui les panifient. C'est-à-dire qu'on peut difficilement trouver du pain réalisé uniquement avec des farines de petit épeautre ou de blé ancien.
Ouais. Alors, le gros problème, c'est que même les paysans boulangers qui ont des blés anciens, je vois en janvier, février, ils n'ont plus de stock parce que ça part à une vitesse.
Ils sont dévalisés.
Voilà, ils sont dévalisés. Il y a un gros problème avec ces histoires de blé ancien, vous pouvez pas vous en acheter, vous voyez.
Alors voilà, évident. C'était ça la question que je te posais tout à l'heure, c'est cette interdiction de vendre des farines de blé ancien dans les boulangeries, c'est ça ?
Non, tu peux vendre du blé ancien, des farines de blé ancien. C'est juste les graines de blé ancien. On peut pas, je peux pas en vendre
c'est
un collègue.
Simplement
il faut les échanger. Okay. Voilà. Après, non, une fois que la farine de blé ancien, voilà, tu peux.
Mais toi, tu peux pas aller démarcher une boulangerie et leur dire voilà, regardez, j'ai des céréales anciennes. Est-ce que ça vous intéresse pour faire votre pain?
Alors, pour vendre de la farine à des boulangers, c'est pas très toléré.
Voilà, c'est ça le truc.
Bah, disons, voilà, c'est pas vraiment toléré. Il y a un flou, c'est difficile de savoir exactement. Ce que je sais, c'est que j'ai déjà eu, par exemple, je faisais mes semences à la ferme à l'époque, ce qu'on appelle semences à la ferme. C'est-à-dire, tu prends ton blé, tu le fais trier. Il y a un gars qui vient avec une remorque, il te trie ton blé. Et il fait la même chose que dans les maisons de semences, tu vois. Il te met les grains cassés d'un côté, les cailloux, et voilà. Donc, on avait le droit, au niveau de la PAC aussi, de faire 100 kilos de semences anciennes et 100 kilos de semences achetées. Hein, on sème 200 kilos hectares. Bon, moi, je faisais ça, c'était en toute légalité, hein, c'était autorisé, mais j'ai quand même eu les fraudes de Toulouse, alors que j'étais dans l'Hérault, qui sont venus un après-midi me faire pression, me menacer même de contrôle fiscal. Et puis, quand j'en ai parlé à des gars du Quercy...
Pourquoi ils te menaçaient ?
Ah, il me disait qu'il fallait... pourquoi vous faites des semences à la ferme ? Il faut acheter des semences certifiées. Mais je leur disais, mais pourquoi ? J'ai le droit. En plus, on était autorisés. Voilà, c'est hallucinant.
Hein. Wow.
Alors, c'est un petit gros. J'en ai, alors, j'ai pris leur nom parce que je me suis dit, c'est des gars qui viennent d'une maison de semences. C'est pas possible pour qu'ils me disent ça.
Ouais.
Et ils étaient des fraudes de Toulouse alors que j'étais dans l'Hérault. Après, j'ai appris qu'ils n'avaient même pas le droit de venir me voir. Donc, en effet, j'ai appelé les fraudes de Toulouse en donnant leur nom. Et on m'a dit oui, c'est vraiment des inspecteurs de chez nous. Et j'en ai parlé au réseau Semences Paysannes qui est dans le Quercy. Là, et les gars m'ont dit, ah ouais, le petit gros, on le connaît, il arrête pas de nous embêter. Donc voilà.
C'est vraiment la guerre des semences.
Alors vous imaginez, bon... tu as vu, s'il tombe sur moi, c'est pas grave, quoi. Je suis pas impressionnable. Mais tu vois, le petit paysan, voilà. Le gars qui débarque sans rendez-vous dans l'après-midi, comme ça, qui vous disent qu'ils sont des fraudes et qui vous menacent en plus de contrôle fiscal.
Ils savent comment impressionner. Hein.
On a
intérêt à être vaillant avoir peur de la bataille.
Faut savoir, c'est que aussi les lois de la PAC ne nous aident pas. Hein, ça ne favorise pas du tout les agriculteurs bio.
Politique agricole commune européenne.
Il faut savoir que cette année, on devait avoir les aides au mois d'octobre. On ne les a toujours pas eues, ou pas tout le monde. Les aides dans le bio ne sont toujours pas tombées, alors que ça devait arriver en octobre. Je ne sais pas où tu en es, toi, mais bon.
Actuellement, je suis je monte les dossiers pour passer en bio.
Mais bon, voilà. Les aides, alors, elles ne sont pas arrivées encore. Et donc, vous vous rendez compte, on a reçu un papier où c'est l'État qui nous demande de signer un papier en nous disant « On va vous faire l'avance de l'argent qu'on vous doit, de l'argent que la PAC vous doit. » Ils nous doivent l'argent depuis octobre. Donc, moi, j'ai le papier, je l'ai signé, mais j'ai quand même écrit à Mireille Jourdet, ma copine de la direction départementale de l'agriculture de l'Hérault, que c'était une honte qu'ils nous devaient cet argent depuis le mois d'octobre, en sachant les difficultés que nous avons. Voilà. Et la semaine d'après, j'ai eu le service des fraudes qui est passé chez moi, c'est-à-dire il y a 3 semaines, un gars qui est arrivé le matin tout seul pour venir analyser mon petit épeautre. Voilà, il l'a pris, il l'a analysé, il n'a pas passé la porte de la maison, bien sûr. Mais bon, voilà, vous voyez, donc il y a des pressions permanentes sur les agriculteurs qui disent quelque chose, quoi.
C'est ça. Bon, il faut dire que toi, tu n'as pas peur de l'ouvrir.
Non, mais attends.
Forcément, ils ont dû t'avoir dans le collimateur.
Mais je suis normal.
Mais merci.
Je suis désolé.
Merci de dire tout haut tout ce que tout le monde
pense. On n'est pas des esclaves, suis désolé.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment, il en va de la dignité humaine là, de se battre contre toutes ces choses-là. Alors justement, en ce qui concerne ton engagement et ton militantisme, tu as créé un collectif citoyen.
Exactement.
Voilà, qui s'appelle Biolocal 34. Donc ça concerne l'Hérault et c'est vraiment pour essayer de développer l'agriculture biologique dans l'Hérault. Et dans la région plus largement.
Voilà, développer l'agriculture biologique et aussi faire entrer le bio local dans les cantines, parce que c'est dramatique. Il y a beaucoup de com' là-dessus. Actuellement, il y a 0 kg de bio produit dans l'Hérault aux cantines de Montpellier. Quand vous dites à Montpellier ça, les gens ne veulent pas vous croire parce qu'ils font tellement de com' sur l'écologie, la métropole, tout ça. Voilà, Nîmes,
c'est
pareil.
Et ça, c'est vraiment un élément qui pourrait faire basculer la production.
Exactement.
Bio, parce que si les cantines se mettent effectivement à donner du bio aux gamins, là il va falloir derrière que ça produise, qu'il y ait tout un tas de filiales qui se mettent en place. Ça, ce serait fantastique pour l'agriculture bio. Il est vraiment temps que les élus se positionnent et que les écoles et les parents d'élèves se positionnent pour qu'il y ait du bio dans les cantines. C'est indispensable.
Là, je pense qu'on pourrait vraiment tout changer. Si on passait en bio dans les cantines, alors c'est de suite l'argument prix est avancé. Moi, du Borchamps, de la tomate pas calibrée en caisse plastique que je récupère à livrer en 15 km, c'est pas très cher. Ça, c'est pas vrai, c'est pas cher. Donc, ils veulent même pas s'asseoir pour qu'on fasse les comptes et dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, il y a les lobbies, Sodexo, Transgourmet, toutes ces grosses boîtes qui.
Du tout lâcher les parts de marché.
Il faut savoir que Sodexo est un des plus gros financiers de partis politiques en France. Donc, moi, j'arrive à livrer 7-8 lycées et collèges. C'est très difficile dans l'Hérault et le Gard. Hein, mais bon, c'est les yeux dans les yeux avec des chefs qui sont responsables. Les autres, ils veulent avoir des cutters dans la main et ouvrir des sachets.
Des barquettes plastiques.
Donc, on pourrait vraiment changer les choses parce qu'il y a dans l'Hérault, par exemple, on a fait une pétition pour demander à M. Philippe Papin, l'acheteur du Conseil Général, de mettre du bio dans les cantines. Il faut savoir que ce monsieur, il m'a fait porter 4 fois du petit épeautre aux cuisines centrales en échantillon. Et la 5e fois, il m'a dit d'aller chez Sodexo ou Pomona. Vous voyez, il s'est dit, celui-là, je vais le lasser. Et au bout de 4 fois, ce paysan, il va arrêter. Donc, vous voyez.
Je vais te couper. Nous allons écouter Claude Nougaro. On reprend juste après Le Coq et la Pendule.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût. car la pendule était fort belle et son tic-tac si doux que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle dans une ferme du Poitou. Un coq aimait une pendule de l'aube jusqu'au crépuscule et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, dans une ferme du Poitou. Un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicule qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles. En écoutant son Don Juan, lui seriner sa séguedille pour imaginer son trépas. Point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou. Cocorico, un coq aimait une pendule.
Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 sur le 99.2 et nous nous intéressons aujourd'hui à l'agriculture. Comment on passe de l'agriculture conventionnelle entre plein de guillemets, puisque Renaud vient de me faire remarquer que c'est une honte d'utiliser ce mot, on devrait dire l'agriculture chimique, puisqu'il n'y a aucune convention qui nous oblige à polluer nos terrains et à aller dans ce sens de l'agriculture qui est une absurdité pour l'humain et pour la planète. Donc comment on fait pour passer de cette agriculture-là, hein, la chimique, la dégueu à l'agriculture bio. Donc, il nous reste un quart d'heure, hein, pour terminer sur ce sujet avec Renaud Suquet et Jean-Luc Aussignargues qui m'ont accompagné toute cette émission. Jean-Luc, toi qui es sur le point de convertir ton exploitation en bio, ça faisait des années que ça te titillait, là ça y est, c'est décidé. Quelles questions tu te poses aujourd'hui? Quels sont les principaux freins que tu peux rencontrer ou les principales peurs que tu peux rencontrer?
La peur, c'était uniquement financier. Hein. Je veux dire, c'est, voilà, si on ne peut pas vivre de ce qu'on produit et d'aller vers l'inconnu jusqu'à maintenant, ça a été un très très gros frein. Parce que bon, avec toutes les années d'expérience, j'ai remarqué qu'il y avait dans la culture conventionnelle qu'on pouvait passer au bio de par une expérience visible.
De tes collègues autour de toi.
Des expériences
tu vois que
qu'on
ça
fait
fonctionne.
Sur des petites parcelles, puis on y tient. Là, j'ai rien fait et il y a du rendement.
Ah oui, enfin, j'ai pas mis de produits, j'ai pas traité et puis tiens, mes plantes,
ça,
elles vont bien.
Tiens, ça marche. Alors donc, l'agriculture conventionnelle, ben, on traitait, on mettait les engrais sans chercher à comprendre, pour la sécurité.
Donc là, tu commences à sortir de ce mythe qu'on ne peut pas se passer des pesticides, on ne peut pas se passer
Oui, si on peut faire autrement...
T'es en train de te rendre compte que finalement, ça marche sans.
Si on peut faire autrement, pourquoi pas, hein, même, oui. Si, ça, de toute façon, tout ce qui est production à outrance, de toute façon, ça ne pourra pas durer. De toute manière. Donc, tout ce qui est entrant, notamment les engrais, c'est une ressource. Ces ressources s'épuiseront tôt ou tard.
Tout à fait.
Donc, il faut prendre conscience, je pense, bien avant. Donc, après, bon... voilà.
Alors là, justement, dans tes premières démarches pour convertir ton activité en biologique, quels sont les interlocuteurs qui ont pu t'aiguiller ou te conseiller dans tes démarches ?
Le Civam Bio, ils sont vraiment intéressants. C'est eux qui m'ont épaulé pour les démarches, pour la technique, pour tout. C'est vrai que ils sont super.
Ah, génial. Pour l'instant, c'est les seuls avec qui tu as pris contact ?
Il y a aussi, oui, contact, oui, pour le truc agriculture biologique, oui.
D'accord.
Oui.
Renaud, est-ce que toi, tu aurais des personnes à conseiller éventuellement pour ceux qui aimeraient convertir leur activité en bio ? Quels sont les organismes ?
Ouais. Alors, il y a le Civam Bio, bien sûr. Alors, moi, j'ai une grosse critique au niveau
du
Civam
Bio. Non, mais tu gardes tes critiques, il nous reste 10 minutes. On parle que de ce qui est positif pour finir.
Il faut savoir que moi, dans l'Hérault, si je suis au Civam Bio de l'Hérault, je ne peux pas aller aux réunions du Civam Bio du Gard ou du Civam Bio de l'Aude.
Quoi. Oui, mais c'est toi, tu veux être partout aussi. Tout le monde n'est pas comme toi.
Dans l'Hérault, il n'y a pas de céréales. J'aimerais bien me frotter la cervelle à des céréaliers de l'Aude ou du Gard.
Oui, non,
voilà, donc c'est quand même dommage. Quoi. Ouais, je suis triste pour le Civam Bio.
Ça manque d'ouverture un peu à ce niveau-là.
Exactement. Et puis, moi, je lui conseille d'aller voir des agriculteurs. Moi, je suis allé voir des agriculteurs dans le Lauragais en bio. Ils avaient tous le sourire. Ils font des rotations. Hein. Tu fais de la lentille blé. C'est un super antécédent, tu le sais, pour l'azote. Derrière une lentille, il y a un beau blé. Derrière un pois chiche. Voilà, il faut faire des rotations. L'enherbement, pareil. Dès que tu fais des rotations, tu n'as plus ces problèmes d'enherbement que tu as dans le chimique.
Ah oui vraiment une manière de répondre aux mauvaises herbes.
Ah ben oui, si tu mets la même culture tous les ans, tu vas avoir les mêmes mauvaises herbes tous les ans.
Donc, il y a vraiment des techniques à apprendre dans l'agriculture bio ou à réapprendre, parce que j'imagine que les anciens le connaissaient très bien, que ça s'est perdu malheureusement avec la solution de facilité des engrais chimiques et tout ça, mais qu'il faut vraiment qu'on retrouve toutes ces connaissances aujourd'hui.
Voilà, des agriculteurs comme dans la vigne, hein, il faut aller voir, il y a des gens qui marchent très très bien en bio, il y a les grands domaines bordelais ou bourguignons sont en bio, ils mettent pas le label bio sur les étiquettes parce que ça fait baba cool, ça fait une mauvaise image.
Non,
bien sûr, il y a plein de grands domaines dans le bordelais. Romane et Conti est en bio, même en biodynamie, je crois, parce que les gens les plus forts, ils sont en biodynamie. Là c'est encore mieux que le bio.
Oui, ça c'est une étape au-dessus du bio. Après, il y a la biodynamie, effectivement. Voilà. Bon, ça fera le sujet peut-être d'une prochaine émission.
Mais c'est pour l'image, ils mettent pas le logo AB, parce que ça fait baba cool, ça fait pas clean, ça fait pas luxe, ça fait pas...
Bon, vous entendez les auditeurs et les auditrices, ceux qui mangent bio, c'est pas que des baba cool, hein, et c'est pas que des bobos, d'accord ? Faut changer cette image.
Exactement.
Il est temps. C'est juste des gens qui prennent soin de la vie, tout simplement.
Des gens normaux.
Des gens normaux, voilà, qui ont un peu de bon sens. Et on vous invite tous à avoir un peu de bon sens. Bon, et bien sûr, facilitons donc les circuits courts, le bio, pas forcément labellisé, mais en tout cas, les productions qui respectent et l'environnement et l'humain. Et puis, quoi d'autre ? Quelque chose à ajouter, mes chers invités ?
Moi, je pense qu'il faudrait que les agriculteurs bio se regroupent un petit peu plus, fassent plus d'échanges, qu'il y ait moins d'individualisme. Moi, j'ai de gros problèmes pour qu'on se prête du matériel, les gars ne veulent pas. Voilà, il faut que ça s'ouvre dans l'amour, dans l'entraide, dans la camaraderie paysanne.
Ouais.
Entre départements aussi, on essaye de nous... Ça. Les Gardois sont Gardois, mais c'est une folie, ça, vraiment.
Attention. Merci d'ailleurs.
On va changer.
Voilà, merci d'ailleurs, Renaud, d'avoir osé traverser la frontière et d'être venu dans le Gard pour nous parler de ton expérience.
C'est pas vrai. En fait, ça a été des frontières qui ont été faites par les hommes pour nous séparer. Pour qu'on ne rencontre pas d'agriculteurs gardois ou d'agriculteurs de l'Aude.
Il est temps qu'on saute la clôture, les moutons.
Voilà. Exactement.
Allez, merci beaucoup d'avoir été présent, c'était très très intéressant. Merci à Alain pour la technique et on se retrouve le mois prochain. À bientôt, salut.
Salut. My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 8h à 9h. Toutes les émissions sont également accessibles sur le www.radio16.net.